Je passe tout de suite la parole au docteur Sabourot pour l'accueil des femmes victimes de violences.
Je ne suis pas le docteur Lopez, je suis le docteur Séga Sabourot. On travaille ensemble, on a créé ensemble l'Institut de victimologie en 1995. Alors, pour vous donner un petit peu d'historique, parce que ça amène toujours comment la pensée se met en route. En 1995, il y a eu les attentats dans le RER. Et les personnes qui étaient dedans ont subi des troubles. Il y avait des troubles de l'ordre physique, il y avait des troubles de l'ordre psychologique. Et Gérard Lopez, qui travaille aux UMJ, entre autres, ne voyait pas à qui ni comment pouvoir traiter ces personnes victimes de troubles psychotraumatiques, ce qu'il ne se faisait pas, et les envoyer à l'hôpital militaire, là où ils sont un petit peu, ils étaient un petit peu en pointe sur le trauma, ou les envoyer à l'hôpital, ou les envoyer voir un psy, était assez difficile. Donc on a créé ce dispensaire pour essayer de répondre à sa demande, et effectivement, on n'a pas manqué de patients. Par contre, on a manqué pas mal de patients victimes d'attentats quand même, heureusement. C'est pas un nombre très important. Mais Gérard Lopez, qui travaillait toujours aux UMJ, s'est aperçu qu'il y avait une autre type de traumatisme qui présentait les mêmes symptômes et pour lequel on pourrait peut-être apporter de l'aide. C'était les femmes victimes de viol qu'on envoyait, que les commissariats de police envoyaient aux urgences du MJ pour faire le diagnostic. Et donc il s'est aperçu, comme on le sait, comme d'autres, que des symptômes revenaient de façon un petit peu systématique, notamment la peur et l'évitement. Les phobies, entre guillemets, c'est-à-dire la peur de sortir, la peur des hommes, la peur de retourner au travail, la peur de retourner dans cet lieu. Et à l'époque, nous ne travaillions pas encore ensemble, mais on se connaissait bien. Et moi, je suis thérapeute comportementaliste et cognitif. Et effectivement, dans ce type de prise en charge, on s'occupe beaucoup des phobies. Et donc, on a fait un parallèle et on s'est dit, après tout, peut-être qu'on peut apporter une aide très spécifique à ces patientes. Et on s'est mis au travail et donc, effectivement, très vite, on a vu des victimes de viol et puis très vite de victimes d'inceste et maintenant très vite aussi de victimes de violences conjugales. Donc, ce centre, on l'a créé en 95. À l'heure actuelle, on fonctionne avec des psychiatres et des psychologues. Nous fonctionnons avec des psychologues et nous sommes complètement dans l'illégalité. Il y a des gens ici de la CPAM, j'espère pas, encore qu'ils sont au courant. Il n'y a pas de psychiatre pour travailler, hein. Il y en a plus, il y en a de moins en moins. Et donc, il y a des très bons psychologues, très bonnes psychologues qui sont formés, qu'on forme de mieux en mieux et qui sont très investis dans ce domaine, mais qui, effectivement, ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Donc, les patientes qui sont en général en souffrance et démunies ne peuvent pas s'adresser à elles. J'ai toujours été étonnée, notamment au centre, et bon, moi, j'ai un cabinet privé aussi, qu'il y a deux types de personnes dans le psychotrauma. Ceux qui ne veulent pas payer et celles qui payent malgré tout, qui payeront n'importe quoi, pour être pris en charge. Ceux qui ne veulent pas payer, c'est les victimes d'accidents de voiture, d'agressions, d'accidents du travail, parce qu'ils trouvent que c'est leur droit et qu'on doit les traiter gratuitement. Et les femmes victimes de viol qui payent n'importe quoi, n'importe qui, même de leur personne, et les victimes de violences conjugales, pour être un petit peu écoutées. Donc au cabinet, j'ai des gens, des victimes de viol ou de violences conjugales qui viennent me voir, qui veulent même payer le prix, moi je suis en secteur 2, maximum, parce qu'ils ne trouvent pas d'écoute ailleurs et c'est quand même assez dramatique. Donc nous avons psychiatre et psychologue, un petit temps de psychiatre et plus temps de psychologue. Et nous avons petit à petit, nous sommes été amenés à créer aussi un département enfant, parce que cette réflexion était vraiment importante. Vous allez voir rapidement dans mon topo, il faut s'occuper des femmes victimes de violences conjugales parce qu'il faut s'occuper des enfants, parce que une petite étude que j'ai fait personnellement pour suivre toute cette curiosité de certains médecins dont on vous a parlé ou de paramédicaux dont on vous a parlé tout à l'heure, c'est qu'effectivement en débutant 95 dans ce centre, j'ai regardé, écouté, on a travaillé beaucoup avec les associations, les paramédicaux, et on verra après avec le 93. Et on s'est rendu compte, enfin moi je me suis rendu compte, j'ai fait une petite étude statistique à mon cabinet. Donc je vous dis, je suis thérapeute comportementale et cognitif et donc je m'occupe beaucoup de troubles anxieux et de troubles dépressifs. et de troubles, les évitements, que ce soit des phobies sociales ou que ce soit des peurs de l'ascenseur, des peurs de prendre la voiture, des peurs, enfin, toutes des choses comme ça. Et lorsque j'ai fait le petit astuti, avant d'être repérée sur le web comme patient, comme médecin m'occupant de violence, hein, donc avant cette période-là, 75% de mes personnes qui venaient se plaindre de dépression ou de troubles anxieux avaient dans leur histoire familiale un problème de violence. Hein. Et non repérés par eux-mêmes d'ailleurs. Par exemple, je me souviens comme ça, un monsieur qui venait pour un problème d'affirmation de soi dans son travail. Je n'arrive pas à être un chef, je n'arrive pas à être, avoir une autorité, ou alors je crie, ou alors je suis violent, et donc c'est pas très bien perçu des autres. Et en parlant un petit peu de son enfance, que je fais quand même si je suis TCC, on s'intéresse des interactions qu'il y a eu dans la famille, dans l'éducation et dans les apprentissages, il a pu me raconter dans les premiers entretiens qu'il avait une famille parfaite, un rêve. Et un des souvenirs qui lui venait, c'était d'avoir été obligé de se promener dans son village avec une pancarte où sa mère avait écrit « Je suis un menteur ». Donc, vous voyez la perception que les gens ont de ce qu'est ou de ce que n'est pas la violence. Hier, j'ai reçu une petite jeune fille de 18 ans qui vient me voir parce qu'elle a fait plein de psy. Et elle veut, donc elle a découvert que TCC aidait à s'affirmer, elle veut s'affirmer. Et en écoutant un petit peu son histoire, elle a un père... qui crie tout le temps, qui insulte, qui maltraite. Ah, mais il frappe pas ma mère, hein, donc il est pas violent. D'accord. Par contre, oui, moi, il me frappe, mais enfin, c'est normal, c'est mon père. D'accord. Donc, c'est hier, hein, là aussi, c'est quelque chose qui est qu'on entend couramment. C'est-à-dire, on n'a pas encore dans notre esprit que la violence est quelque chose qui perturbe le fonctionnement des enfants, donc des adultes à venir. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis quelque temps, on a des consultations qu'on appelle de victimologie dans le 93. Ce sont des consultations qui sont intégrées dans des dispensaires à Bagnolet, à Montreuil bientôt peut-être, puisqu'il y a des problèmes municipaux, à Romainville et à Saint-Denis. C'est organisé par en général les conseils généraux. Le conseil général du 93 et les maires de ces villes-là, parce qu'effectivement, la violence conjugale, ils y sont beaucoup concentrés, la violence tout court, en fait, hein, dans tous les domaines, et ils recherchent un peu d'aide. Il n'y a aucun psychiatre installé pratiquement, où ils sont tous retraités dans le 93. Les psychologues, comme on vous a dit, c'est pas gratuit, donc il n'y a pas d'endroit où on venait. Donc ils ont créé ces consultations. Malheureusement, le manque d'argent fait qu'on a le droit, les patients qui viennent, les femmes qui viennent, ont le droit à 7 consultations. Donc c'est vraiment de la victimologie, de la prise en compte, et après il faut adresser. Là pareil, on est toujours dans le même problème. Où est-ce qu'on adresse ? Un centre comme le nôtre, il n'y en a qu'un seul à Paris. C'est un centre privé où c'est gratuit, enfin le ticket modérateur. On fonctionne avec les subventions finalement de la sécurité sociale qui nous paye, qui rembourse les consultations. Donc c'est gratuit pour eux, mais on est le seul. Sinon il faut aller soit à l'hôpital, où en général on a un quart de psychiatre et une demi-psychologue, pour répondre aux psychotraumas, ou alors en ville, où les gens sont de façon formés, les psychiatres sont formés de façon très inégale. Alors, quant aux médecins traitants, puisque j'y pense, généraliste, j'y pense tout de suite après ce qu'on a dit, c'est vrai qu'il est au cœur du sujet, mais par exemple, j'ai une femme que je suis depuis quelques mois, je l'ai vue arriver à mon cabinet dans un état, je me suis même dit, c'est une grande psychotique, je ne vais pas suivre, c'est pas mon boulot ça, ce qui n'est pas vrai, c'est le mien. Et je me suis quand même un petit peu intéressée à elle. Et cette dame qui frôlait qui baisse la tête sans arrêt quand elle marche, qui a 30 ans, qui a l'air d'en avoir 60, qui frôle les murs en passant et qui tremble. Et quand elle me pose une question, elle me dit « C'est vrai, ce que je dis c'est vrai, vous me croyez ?» Sans arrêt. Finalement, c'est une victime de violence conjugale. En 6 mois, elle a tout réglé. Elle est allée voir les associations, elle a fait tout ce que les associations ont dit, a été pris la main, et en 6 mois, elle a pu mettre son mari dehors, puisque dans le 93, il y a une écoute et un suivi organisationnel et associatif très intéressant, et on a des résultats assez rapides. Mais elle continue de faire la thérapie avec moi. Et pourquoi je pense à elle ? Pour le médecin traitant, oui, merci, heureusement que vous suivez. Eh bien, le médecin traitant qu'elle avait, c'est le même que celui de son mari, évidemment. Et les médecins de ses enfants, c'est le même c'est le même. Et quand elle va voir avec un œil au beurre noir, ou fatigué, ou en larmes, ou complètement confuse, quand elle va voir son médecin généraliste, elle a le droit à une petite tape sur l'épaule. On dit, mais écoutez, je le connais bien, votre mari. Il est gentil. Oui, il est très gentil à l'extérieur. Alors bon, très vite, on fait 12 000 consultations par an, ce qui est un nombre assez important, hein, dont 1 600 consultations pour enfants. Le problème des enfants, c'est que ça coûte très très cher, entre guillemets, parce que pour voir un enfant, il faut bien une heure de temps. Il faut voir ses parents, une heure de temps. Deux parents, deux heures de temps. Il faut aussi un petit peu voir la fratrie. Il faut écouter, il faut aller voir ou parler avec la maîtresse. Il faut... Donc, effectivement, ça fait beaucoup de temps et on a le droit à une petite consultation de la sécurité sociale. C'est pour ça aussi que la pédopsychiatrie ou les pédiatres sont aussi une population en voie de disparition parce qu'ils ne peuvent pas travailler correctement. Ou, voilà, sinon, on ne donne que des médicaments. Donc, petite statistique des personnes qu'on voit, on a quand même 75% de femmes, en général entre 20 et 50 ans, et donc principalement de la région parisienne et de l'Île-de-France. Hein. Alors, 18%, vous voyez, de personnes qui ont été victimes de viol. Alors, nous, on n'a même pas besoin de dire qu'ils se plaignent, parce que nous, on arrive en fin de parcours, on est à la fin. La plupart du temps, les diagnostics sont faits au centre et les preuves sont faites ou pas faites, mais il y a eu procès ou le procès est en cours. Donc 18% de personnes ayant subi des viols, 14% ayant subi de violences conjugales, 11% des agressions sexuelles un peu tout venant, maltraitance, inceste, qui sont un plus petit nombre, mais les thérapies durent plus longtemps. Et bon, ce que je voulais aussi rebondir, 75% à l'intérieur de la famille, hein, des agressions. 11% à l'extérieur. Ce qui fait que quand je prends une femme victime de viol en charge et qu'on doit travailler avec elle la notion de sécurité et notamment d'affronter les endroits où elle ne se sent pas en sécurité mais où elle est en sécurité, j'enfonce le clou en disant que l'endroit principal où on est en insécurité, c'est à la maison avec papa, maman ou avec son mari. C'est paradoxal. Et alors qu'à l'extérieur, finalement, sortez, allez en boîte, promenez-vous, le risque est moindre. Ce qui est un peu difficile à passer quand même. Alors bon, ça vous l'avez entendu, on va parvenir. Un petit rappel de la violence qui est physique. C'est la plus facile à voir, mais comme on vous l'a rappelé, c'est pas vrai que... C'est pas souvent... D'abord, souvent, elles sont tombées dans l'escalier, hein, vous savez, ou elles se sont pris le coin de la porte. Et en général, les généralistes disent, bon, bah oui, elle s'est pris le coin de la porte, c'est pas grave, ça va passer. Parce que ma pensée aussi de psy, c'est qu'effectivement, là, quand je vous ai dit qu'on est plus en sécurité à sortir en boîte à 3 heures du matin, de laisser ses filles sortir en boîte que de laisser ses filles avec son petit copain ou à la maison, c'est un truc, vous avez réagi parce que c'est insupportable. C'est pas quelque chose qu'on peut accepter. Et d'ailleurs, dire cette phrase, c'est faux, c'est pas possible. Statistiquement, c'est vrai. Mais quand même, c'est des statistiques par rapport aux agressions. Ici, il y a peut-être un petit pourcentage de gens qui ont été agressés, mais pas tout le monde. La plupart du temps, quand même, on est bien dans sa maison, on est bien avec son mari. Mais ça existe et il ne faut pas l'oublier. Et c'est quelque chose qui est très difficile à en parler. C'est très difficile même à le comprendre soi-même. Justement, parce qu'on vous a vaguement, enfin, on vous a dit rapidement que la violence, c'est de l'amour en fait. Hein. Vous savez que les gens jaloux, c'est des gens qui aiment beaucoup. Mon mari m'aime tellement qu'effectivement, si j'arrive avec une heure de retard, il est dans tous ses états, par amour. Hein. Et la dernière fois, il m'a envoyé une claque parce qu'il a cru que je sortais avec le voisin, mais c'est par amour. Et c'est très difficile de sortir de ce cadre-là. Donc, il y a un moment, on est épuisé, on n'en peut plus, à force de recevoir des baffes ou d'être humilié, donc on se déprime. On prend un peu de recul, mais l'autre va demander pardon, il va venir avec des fleurs ou je ne sais quoi. Et donc, on va continuer d'y croire. Il faut du temps pour croire que toutes ces manifestations-là ne sont pas des manifestations d'amour. Donc, il faut aussi pouvoir croire que l'amour, c'est la liberté, c'est pas la possession. Et ça, c'est aussi un travail important à faire qui n'est pas encore bien... On parlait des femmes africaines ou de la société africaine, mais moi au cabinet, hein, je vois pas je vois quelques personnes africaines, mais pas du tout. Je vois des gens du 16e, du 17e, du 18e, parce que c'est mes arrondissements, de la banlieue et des familles tout à fait respectables. Notamment une femme qui est venue me voir pour un psy pour dépression et puis pour problème d'affirmation de soi. C'est une femme brillante, d'un niveau intellectuel brillant, d'une famille dite bourgeoise, avec pignon sur rue, très bien, et qui me dit, voilà, je change de service, on me, je espèce de petite promotion, mais ça ne va pas aller du tout, hein, parce qu'ils vont s'apercevoir, c'est le syndrome de l'imposteur, ils vont s'apercevoir que je ne suis pas du tout à la hauteur. Et là aussi, attitude un petit peu basse et bon, complètement paniquée. Peut-être qu'il faut que je m'arrête, peut-être qu'il faut que je change de métier. Donc des propos comme ça et je suis triste. Bon, en dialoguant un tout petit peu, en posant des questions, même au premier entretien, les gens ne disparaissent pas parce qu'on leur demande comment se comporte leur mari avec elle ou comment ça s'est passé dans leur enfance avec elle. Peut-être que ça n'accroche pas tout de suite, mais les questions, comme on disait tout à l'heure, reste dans la tête et la confiance et la possibilité qu'on peut leur faire confiance à ce qu'ils pensent, à leurs sentiments, à leurs émotions, ça reste et ça provoquera une des consultations plus tard. Hein. Je vois des gens, moi, 2-3 ans après, qu'ils aient vu une assistante sociale qui leur ait parlé du couple. Donc, c'est pas grave, il faut le dire, ça viendra plus tard. Et donc, en discutant avec elle, bon, il était manifeste qu'elle était sous l'emprise de son mari, qui était dominant, violent, humiliant. Pas du tout violent physiquement, donc il n'était pas violent, mais humiliation, dévalorisation, cris, injures, discutation, puis de toute façon, tout le temps en train de lui dire, de toute façon, tu n'y arriveras jamais, tu ne vaux rien. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, se retrouver, devoir aller dans un nouveau service avec des nouvelles personnes était quelque chose de très, très angoissant pour elle. Donc, à la fin de l'entretien, elle m'a dit, je ne suis pas d'accord avec ce que vous me dites, mon mari n'est pas violent, et je ne sais pas ce que je suis venue faire. Bon, bah, on est toujours un petit peu mal en tant que psy, on se dit mal, j'ai pas bien fait mon boulot, j'ai perdu une cliente, mais j'ai surtout fait du mal à cette femme qui avait l'air d'être bouleversée de ce que je lui ai dit. Et un mois après, elle est revenue et elle m'a dit, ok, vous avez raison, par contre, je vais pas quitter mon mari. Donc on se débrouille et puis elle a écrit un livre depuis, donc ça va bien, elle a retrouvé son affirmation de soi, c'est le principal. Hein. Donc psychologique, sexuel. Cette femme dont je vous disais qu'elle avait une allure assez dramatique, elle m'a dit au bout de 6 mois, donc c'est pas très long, hein, mais c'est quand même un petit peu long, elle m'a raconté sa nuit de noces au bout de 6 mois. Je vous ne la raconterai pas parce que sinon, voilà, ça va vous faire souffrir un petit peu inutilement, mais c'était effectivement gravissime. Et depuis 30 ans, elle subit ça pratiquement tous les jours. C'est le devoir conjugal. Économique, alors ça c'est aussi quelque chose qu'on questionne. Moi je demande à toutes mes patientes, est-ce qu'elles ont une carte bleue ? Et vous serez étonnée d'entendre que beaucoup n'en ont pas. Non, c'est mon mari qui s'occupe. Est-ce qu'elles gèrent leur propre compte bancaire ? D'accord ? Ben, vous seriez étonnée parce que beaucoup de femmes ne gèrent pas leur compte bancaire. Non, c'est mon mari qui dit que je ne connais pas les comptes et lui il préfère avoir la main dessus. Sur quel compte va leur salaire ? Souvent, leur salaire va sur le compte conjoint, quand il y en a un, ou sur celui du mari, mais celui du mari va sur un compte d'épargne. D'accord ? Bon. Donc, tout ça, c'est des petites choses qu'on peut investiguer gentiment, comme ça. Il suffit d'ailleurs de regarder le chèque avec lequel il paye, hein, pour comprendre. Notamment, par exemple, cette femme, dès qu'elle travaillait, elle avait fait des études quand même, elle avait un petit poste, et son mari lui a dit, bon, ben, maintenant, tu ne travailles plus, tu restes à la maison. Hein? Ça aussi, ça fait partie des violences. Alors ça, plus ça, plus ça, plus ça, on peut dire qu'on peut faire le choix d'élever ses enfants parce que son mari a une bonne profession, c'est pas un problème, mais c'est une discussion à deux. Hein. Si on regarde de près, quelquefois c'est imposé. Alors, les conséquences de cette violence qui est quelquefois très discrète ou pas du tout visible de l'extérieur, c'est la honte, parce qu'on ressent, on se sent de plus en plus mal et on n'ose pas en parler, parce que dire à votre voisine ou à votre sœur que hier vous vous êtes fait tabasser, c'est impossible. Dire que votre mari vous a forcé la veille, ou votre conjoint, ou votre petite amie, ou votre ex, hein, les ex aussi beaucoup, vous a forcé, hein, vous a obligé la veille, c'est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, en général, quand on questionne la réponse de la famille, ça va être « bon, c'est pas grave, c'est ton mari ». D'accord. C'est encore, je veux dire, là, aujourd'hui, c'est encore des réponses qu'on fait ou qu'on entend ou qu'on pense. Hein, donc c'est vraiment quelque chose, on enfonce des clous, je pense que ce que je vous dis ne vous étonne pas, mais il faut le dire, il faut le répéter et voilà, il faut être vigilant à ça. Donc la culpabilité, c'est de ma faute, je vous disais tout à l'heure, la preuve c'est qu'il regrette tellement de m'avoir battue. Hein, et une phrase souvent c'est, mais si tu me comprenais, si tu étais gentil, j'aurais pas besoin d'être violent. C'est ta faute. Tu n'as pas compris combien je suis en manque, combien je suis simple, combien j'ai besoin. Donc, c'est des phrases qui mettent l'emprise et qui provoquent la culpabilité sur l'autre. Et quand on est coupable, ben, on ne peut pas se plaindre. Hein. La peur, à la peur des coups. Et puis la peur aussi absolument importante, c'est que les coups qu'on donne des coups aux enfants aussi, hein, que l'ambiance, que la violence se répète sur l'enfant. Donc l'enfant est aussi un moyen de chantage. La dévalorisation, la tristesse est une des conséquences importantes qui est souvent voulue dans la domination de l'un sur l'autre, c'est l'isolement social. Il faut rompre tous les liens qui pourraient aider la victime à se débarrasser, à s'opposer à ces comportements-là. Donc la conséquence, les aspects négatifs, isolement, dépression, les troubles de la communication, c'est-à-dire une perte de l'affirmation, les pertes des compétences sociales, des troubles du sommeil, des difficultés psychosomatiques, des troubles, la culpabilité et honte. C'est pour ça que les généralistes en voient beaucoup. Hein, c'est ces dames qui viennent tout le temps un peu malades, mal fichues, avec des troubles intestinaux, des troubles digestifs, qui vont voir leur gynéco parce qu'ils ont mal. Cette même patiente a été voir beaucoup de médecins, d'aller voir son gynéco, et le pauvre a constaté des fissures anales graves et voilà, en faisant des examens, elle lui a dit « Mais vous êtes sûre, vous n'avez rien à me dire, vous ne pouvez pas m'aider ?» Et elle était complètement impuissante pour raconter ce qui se passe. Quelle possibilité un médecin quand il constate de ça, hein, c'est difficile. Il peut y en avoir, mais c'est difficile. Donc, 5 minutes. Alors, bon, ça, on vous l'a déjà dit. Voilà, je vais quand même terminer là-dessus simplement pour dire que c'est un problème de santé publique, hein, parce qu'il y a beaucoup de troubles psychotiques, il y a beaucoup de psychosomatiques, beaucoup de dépendances, alcool, tabac, drogue. Hein. Des troubles psychiatriques, donc moi je suis bien passée pour vous le dire, les troubles anxieux, la dépression, les troubles dits borderline, parce que quand la violence s'est installée depuis l'enfance, et les problèmes au niveau de la grossesse. Hein. La grossesse est souvent le moment initial des comportements violents, entre guillemets. Alors c'est pas vrai, il s'est passé tout ce que je vous ai dit, psychologique, économique avant, mais au moment de la grossesse, il se passe quelque chose dans la tête de ces hommes particuliers violents, c'est il va falloir partager, elle va s'occuper de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas parce que je me suis pas intéressée à la psychologie des hommes auteurs, mais la grossesse est un moment où la violence physique se met en route, et notamment les coups. Et on vous a dit des fausses couches. Hein, c'est la femme dont je vous parlais, elle a fait 3 fausses couches. Alors elle a un problème génétique, ça doit être peut-être à cause de ça. Bon, les fractures et la mort, hein. La mort dans la violence conjugale. Quand on travaille avec les policiers, on fait des formations avec la police. En général, le premier coupable qu'on cherche quand une femme est morte, c'est son conjoint. Donc voilà. Et ce que je voulais juste dire pour conclure, je conclue, c'est extrêmement extrêmement important de s'occuper de victimes de violence conjugale. Parce que les enfants sont élevés dans la violence conjugale et que même si le père ne frappe pas ses enfants ou n'est pas méchant avec ses enfants, l'enfant victime est victime secondaire dans cette situation et va avoir des perturbations de ses liens qui vont perdurer tout au long de sa vie. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà. Bon, et on fera l'impasse sur ça. Je vous remercie.